Et bonjour à tous, 20e épisode de notre chronique L'économie en fait c'est cool et nouvel épisode de notre série sur les présidentielles. Et aujourd'hui, on va parler des sondages. Et oui, aujourd'hui, c'est déjà notre 20e épisode. Et pour fêter ça, on a décidé aujourd'hui d'inverser les rôles. C'est moi qui vais poser les questions et c'est Yann qui va y répondre. Salut Yann.
Salut Lilian. Et en effet, on a décidé d'inverser les rôles pour varier un peu les plaisirs. Et puisqu'on est sur un épisode consacré aux élections présidentielles, eh bien on a décidé de parler des sondages. Et comme moi, j'y connais pas grand-chose en économie et que je voudrais pas décrédibiliser cette émission, je vais plutôt me concentrer sur un autre aspect. Déjà, pourquoi est-ce qu'il y en a autant ? Alors ça nous paraît naturel parce qu'on s'y est habitué, mais ça vaut quand même le coup de se poser la question.
Eh oui, je te confirme, on est bien inondé de sondages en ce moment. Bon alors déjà, est-ce que tu peux rappeler rapidement comment ils sont apparus dans notre vie ? Ça sort d'où en fait cette idée-là de faire des sondages ?
Pour comprendre ce qui a conduit à la création des sondages, il faut revenir à un vieux problème auquel tous les pouvoirs ont été confrontés. Qu'il s'agisse de démocratie, de république, de monarchie, peu importe, les régimes ont toujours eu besoin de savoir quel était l'état de l'opinion publique, c'est-à-dire de savoir ce que pense la population d'un pays sur tout un tas de sujets.
Bon, et elle pense quoi la population alors ?
Justement, c'est pas si simple de le savoir. Pendant longtemps, ce sont les journalistes, les préfectures, les experts du renseignement ou même directement les hommes politiques qui essayaient d'obtenir ces informations un peu comme ils pouvaient.
Ouais, ça devait ressembler un peu à du bricolage, là, tout ça.
Pendant longtemps, c'était un peu du doigt mouillé, et c'est au 19e siècle qu'on a commencé à tenter des méthodes un peu plus objectives. Par exemple, aux États-Unis, les journaux organisaient avant chaque élection des votes de paille, c'est-à-dire qu'on simulait l'élection quelques semaines avant en organisant un vote fictif auprès des lecteurs du journal. Mais les méthodes telles qu'on les connaît aujourd'hui apparaissent dans les années 30 et aussi aux États-Unis. Et rapidement, il va se passer un événement qui va donner un énorme crédit au sondage. En 1936, un institut de sondage prédit l'élection de Roosevelt, alors que l'ancienne méthode, celle du vote de paille, prévoyait l'inverse. À partir de là, les sondages vont acquérir un grand pouvoir de séduction et d'influence, même s'ils vont par la suite faire de nombreuses prédictions erronées.
Et alors, comment ça se passe pour que les résultats d'un sondage, ils arrivent jusqu'à nous ?
Déjà, un sondage, il faut qu'il ait été commandé par quelqu'un qui va payer un institut pour qu'il le réalise. Et les plus gros consommateurs de sondages, je pense que tu t'en doutes, ce sont les médias. Et pourquoi est-ce qu'ils en consomment autant ? La réponse est assez simple, c'est surtout pour des raisons économiques.
On va quand même parler un peu d'économie finalement.
Mais je vais quand même la faire simple. Un sondage, ça coûte pas cher et ça permet de remplir facilement des pages de journaux ou du temps d'antenne. Par exemple, ça coûte rien par rapport à ce que coûte une vraie enquête journalistique. C'est un peu comme le micro-trottoir. À l'heure de l'information en continu, un sondage, c'est pratique. Tu le commandes pour trois fois rien, tu le publies, et puis t'invites tout un tas d'experts à le commenter et ça te remplit du temps d'antenne. Et c'est aussi pour cette raison que 6 mois ou 1 an avant le début d'une élection, on commence déjà à en publier alors que tous les instituts disent qu'un sondage 6 mois avant un scrutin, ça n'a aucune valeur. Et parfois même, publier un sondage, ça permet de faire du buzz, quitte à s'arranger un peu avec les résultats qu'on donne.
Alors, si tu sous-entends qu'on s'arrange un peu avec les résultats des sondages, ce serait bien si tu nous donnais un exemple.
Je vais t'en donner un. En 2012, par exemple, le journal Libération avait fait un gros titre sensationnaliste en écrivant en énorme sur sa première page que 30% des Français n'excluraient pas de voter pour Marine Le Pen. Alors forcément, quand tu vois un titre comme ça, t'es là, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis t'as envie d'acheter le journal pour voir, parce que ça t'intrigue.
Ouais, alors du coup, je sens bien que le piège, là, c'est dans le « n'excluez pas de voter pour ».
Eh oui, bien vu, parce que Libération aurait pu faire un titre sur le nombre de personnes qui s'apprêtaient à voter pour le Front National, mais ça aurait été moins spectaculaire. Du coup, ils ont créé une catégorie de gens intitulée « qui n'excluerait pas », dans laquelle tu pouvais mettre tous ceux qui ne savaient pas du tout pour qui ils allaient voter, ni même s'ils allaient voter. Et boum, ça te fait un gros titre. Et ça, ça a un nom, ça s'appelle le biais de présentation. C'est-à-dire que la manière avec laquelle tu présentes les résultats peut leur donner un sens très différent.
Ok, d'accord, j'accepte ton exemple de manipulation d'un sondage pour faire du buzz, mais est-ce que quand ils sont bien utilisés, les sondages, ça peut quand même être un outil assez utile et pertinent, non, pour les journalistes ?
Ils posent quand même plein de problèmes, et puis tellement de problèmes d'ailleurs que ça les rend finalement assez inutiles, voire contre-productifs, et même peut-être nocifs pour le débat public. Un sondage, c'est quand même pas toujours très fiable.
Pour le manque de fiabilité, tu penses aux fois où ils se sont trompés dans leurs prédictions ?
Alors, ils se plantent parfois, pas tout le temps, faut pas exagérer non plus. Mais la méthode utilisée pour les fabriquer se heurte déjà à un premier biais. Parce qu'un institut de sondage travaille sur un échantillon de la population qui doit être représentatif. Il doit donc avoir la même proportion, par exemple, de femmes et d'hommes, d'âge, de catégories socio-professionnelles qu'une population. Et déjà, cet échantillon, il est pas si simple que ça à construire. Mais surtout, à la fin, il réunit que les personnes qui acceptent de répondre à un sondage, alors que la majorité des gens refusent en fait de le faire. Et est-ce que les gens qui refusent de répondre auraient répondu différemment s'ils l'avaient fait ? Eh ben, on n'en sait rien, et le sondeur, lui non plus, il ne le saura jamais. Finalement, le sondage reflète uniquement l'opinion des gens qui acceptent d'y répondre, et il est possible que leur point de vue soit différent.
Ouais, en fait, c'est un peu comme les commentaires qu'on peut lire sous un article ou une vidéo publiée sur YouTube. Ça représente les gens qui aiment écrire des commentaires et en fait, ça, finalement, ça représente assez peu de monde.
Exactement. Mais à la limite, c'est même pas le plus gros problème que posent les sondages. Parce que le fait qu'ils se trompent plus ou moins souvent, tout le monde s'en rend compte. Ce qui est problématique, c'est qu'ils prétendent donner des informations sur l'état de l'opinion publique, alors qu'en fait, ils ont plutôt tendance à l'orienter, voire même carrément à la construire. Parce que là encore, il y a plein de biais. Alors, je vais donner un exemple. Le choix des questions, par exemple, ça pose un sacré problème. Si je commande un sondage en posant la question « Pensez-vous que Joe Starr ferait un bon président de la République ?» Je ne vais pas mesurer l'opinion. En fait, je vais créer un sujet. Parce qu'avant que je pose cette question qui n'a pas de sens, personne ne se l'était jamais posée. Mais puisque les gens vont répondre à ma question qu'ils ne se posaient pas auparavant, eh ben, ça crée un sujet. Et si par exemple 20% des gens me disent un truc du genre « J'en sais rien, je m'en fous, pourquoi pas ?» Je peux très bien titrer que 20% des Français n'excluraient pas de voter pour Joe Starr, et j'ai donc créé de toute pièce un sujet. Et maintenant, je te laisse imaginer le genre de sujet beaucoup plus problématique qu'on peut créer si on en a envie. Et les sondages sont parfois utilisés dans ce cas-là pour faire émerger une candidature ex nihilo ou pour faire grimper artificiellement un candidat dans les intentions de vote. Vous prenez n'importe qui, vous lui consacrez plein de sondages alors que personne n'avait jamais pensé à voter pour lui, vous commencez ensuite à publier les résultats qui donnent lieu à de nouveaux sondages, la machine est lancée et la cote du candidat va monter mécaniquement.
Ouais, du coup, on peut plus du tout parler d'une mesure objective de l'opinion politique, là.
Et oui, et outre le choix du sujet, la manière avec laquelle la question est posée va aussi influencer la réponse. C'est ce qu'on appelle l'effet de cadrage. Je vais prendre, par exemple, un exemple d'actualité. Si je pose la question « Pensez-vous qu'il y a trop de candidatures de gauche cette année ?», je vais probablement accroître la probabilité que les gens disent que oui et donner un sentiment a priori négatif. Alors que je pourrais poser une question du genre « Pensez-vous que toutes les sensibilités de gauche doivent être représentées dans une élection ?» Et là, la question va naturellement donner une perception plus positive.
Bon alors, les sondages et la manière avec laquelle ils sont utilisés, ça crée de nombreux autres biais. Mais ben, comme la chronique approche de la fin, ce serait bien que tu en choisisses juste un.
Alors il y en a un qui me semble particulièrement problématique en période électorale, c'est l'effet course de petits chevaux. Alors on a tous joué à ce jeu de société que personnellement je trouve horrible, mais on s'en fout. L'effet course de petits chevaux, c'est tout simplement parler des élections uniquement à travers le prisme d'une course. Comme des sondages sont publiés tous les jours et que les médias passent beaucoup de temps à les commenter, les questions de fond sont de moins en moins traitées au profit des questions de tactique politique ou politicienne. On connaît tous ça, on passe notre temps à entendre que tel candidat qui n'a que 5% des intentions de vote devrait se désister au profit d'un autre candidat. Ou alors ce sont aussi ces moments où on demande aux candidats qui a priori ne seront pas au second tour pour qui ils vont appeler à voter. Et puis pourquoi vous ne faites pas alliance avec machin ou machin ? Bon bref, je pense que tout le monde a compris. Et l'électeur est alors invité à se positionner non plus par rapport à des propositions de fond, mais par rapport à des considérations tactiques. C'est ce qui nous ramène sans cesse au fameux vote utile. On ne vote plus pour un candidat pour ses idées, mais parce qu'il est mieux placé dans les sondages, pour accéder au second tour, etc. etc. Et le commentaire politique devient en fait une sorte de commentaire sportif, puisqu'on commente abondamment les performances des candidats, c'est-à-dire la manière avec laquelle ils montent ou baissent dans les intentions de vote. Et malheureusement, c'est au détriment du fond, c'est-à-dire des programmes. Et tout ça, je le rappelle, à partir de sondages dont la fiabilité et l'objectivité sont déjà très discutables.
Bon alors d'accord, mais bon du coup en conclusion on fait quoi ? On les interdit les sondages ?
Tu sais qu'il y a pas mal de monde qui réclame leur interdiction en effet. Après il y a d'autres personnes moins radicales qui demandent qu'on les régule, mais c'est assez difficile à obtenir. Il existe par exemple une commission des sondages qui est censée les contrôler un peu, mais elle est tellement permissive que finalement elle ne sert pas à grand chose. Et puis, il y a finalement très peu de volonté politique depuis longtemps pour réguler les sondages. Lorsqu'un projet de loi sort sur le sujet, il est en général rapidement vidé de sa substance.
Et donc, on ne peut rien faire ?
Je crois que ce qu'on peut faire au minimum, c'est de rester très méfiant à chaque fois qu'on nous sort un sondage et de le prendre tel qu'il est. C'est-à-dire un instrument de mesure pas forcément très fiable et qui surtout peut être très facilement orienté. Si on cesse de prendre les sondages pour des reflets crédibles et objectifs de l'opinion publique, ça sera déjà pas mal.
Ok, écoute, merci beaucoup Yann et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.